On est des machines.
Yahoo!
En tout cas, si je me fie à la jasette qu'on a eue pendant la toune de Nickelback, If Today Was Your Last Day, qu'on vient d'entendre à Boulevard 102.1, on va avoir une belle discussion et un bon moment avec Catherine Gentilcar, qui est avec nous, députée de Terrebonne pour le Parti québécois. Madame Gentilcar, merci d'être là.
Merci à vous autres, très heureuse d'être ici.
Un vrai plaisir. Merci d'être passé nous voir. Merci de passer nous voir en personne aussi pour venir jaser. C'est toujours mieux comme ça pour briser la glace, surtout une première fois qu'on se jase à Rage Against le matin. Vous êtes élu depuis quoi maintenant? Presque un mois, ça tourne autour d'un peu plus d'un mois. Comment ça se passe, ce nouveau rôle pour vous? Et comment se fait l'intégration au sein du Parti québécois avec les quatre autres boys?
Bien, ça se passe très bien. C'est une très grande chance que j'ai. Je savais dans quoi je m'embarquais. Là, j'étais quand même présidente du parti. Ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans le parti. Puis comme je vous disais là, pendant la chanson, tu sais, moi, j'ai été très chanceuse de faire une longue campagne, de vraiment pouvoir aller à la rencontre des gens de Terrebonne et de pouvoir me dire « Wow, je suis à ma place puis j'ai envie d'être la voix de ces gens-là ». Il y avait vraiment un besoin qui était là aussi de la part des citoyens, de sentir qu'il y avait des députés à l'Assemblée nationale qui avaient leurs intérêts à cœur. Puis j'ai pu rapidement faire ça, là, faire ce que j'avais promis pendant ce mandat-là déjà dans mon premier mois. Donc, très, très, très choyé. Très bel accueil de l'équipe également. Tu sais, je suis arrivée dans l'équipe puis on se connaissait déjà. On avait déjà une façon de travailler ensemble. Donc, ça a beaucoup facilité mon intégration. J'ai pu commencer à travailler dès le jour 1. Tu sais, puis en dedans d'une semaine, de ma première semaine, j'avais déjà presque tout fait. J'avais posé une question, j'avais fait une interpellation, j'avais déposé une motion. Donc
ça doit aller vite.
Ça va super vite. Le rythme est effréné, mais on se lève le matin puis on sait exactement pourquoi on se lève le matin. Tu sais, notre objectif est clair. On veut servir les citoyens, les intérêts des Québécois aussi. Puis on veut faire du Québec un pays. Donc, c'est très clair quand on se lève le matin. Puis je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir vivre ça.
Première question, avais-tu le tract? Comment ça se passe? Là? Faut que tu te lèves, puis tu t'as adressé ta question premièrement à qui? Ça a été quoi la réponse? Comment t'as senti tout ça?
Il y a une fébrilité, c'est sûr et certain qu'il y a une fébrilité. Puis moi, mes parents étaient aussi dans les gradins.
Okay.
C'était la première journée, en fait, la journée où j'ai fait mon entrée. Fait que
tes parents
rouge.
Étaient comme quand moi, je gaulais au hockey dans le temps.
Probablement.
Ils étaient dans les estrades. Puis là, ils se disaient, qu'est-ce qui va arriver?
Mais exactement. Puis, tu sais, ils étaient très contents d'être là, très fiers, mais aussi fébriles pour moi. Donc, tu sais, évidemment, tu veux faire de ton mieux. J'ai posé une première question à Christine Fréchette. Je lui ai demandé si elle avait l'intention de garder la même direction que Pierre Fitzgibbon puis continuer de dilapider l'argent des Québécois dans des projets, dans des multinationales, des grandes entreprises étrangères qui nous mèneraient nulle part. Tu sais, j'ai pas vraiment obtenu de réponse. Je vais être très honnête avec vous. Mais c'est
non, je l'écoute régulièrement, la période des questions, puis les réponses sont pas toujours au rendez-vous.
Pas toujours au rendez-vous, mais nous, on fait notre travail, puis l'important, c'est de poser les questions que nos citoyens veulent qu'on pose. Mm-hmm. Puis moi, dans Terrebonne, comme c'était l'ancienne circonscription de M. Fitzgibbon, ben, mes citoyens avait besoin d'avoir des réponses là-dessus.
Ça le dit, c'est la période des questions, pas la période des réponses. Ouais, c'est dans le nom.
Là. Donc, on aurait juste changé le titre de la période.
Donc, on change le nom, puis on va régler le problème.
Je pense que ça part de là.
Madame Gentilcar, vous l'avez dit, il n'y a pas de guide quand on devient député. Il n'y a pas de marche à suivre pour bien faire les choses. Y a-tu des fois pas une inquiétude, je vais le dire comme ça, de faire un faux pas ou pas faire la bonne chose? On apprend sur le tas, on est bien guidé par nos collègues, sûrement.
Équipe incroyable au Parti québécois. Puis moi, ce qui m'a donné envie de me présenter pour le Parti québécois aussi puis de m'impliquer au Parti québécois, c'est justement la rigueur du travail qui est fait là par mes quatre collègues députés, mais aussi par l'ensemble de l'équipe qui est là. Ça, c'est très important. Le respect de l'intelligence, puis on respecte notre propre intelligence aussi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de sauter avec le Parti québécois. Donc, on est bien entouré, on fait les choses consciencieusement, puis on les fait pour les bonnes raisons. Puis on est là pour défendre les intérêts des gens. Puis donc, en ne perdant pas ça de vue, évidemment qu'il y a toujours une certaine pression, mais on le fait au meilleur de notre connaissance et avec au mieux de nos moyens puis de tout ce qu'on peut donner. Puis je pense que c'est là où c'est gagnant.
Parlant de rigueur, le gouvernement a vécu une décote au niveau de sa cote de crédit mercredi dernier. Et là, François Legault, dans un message à la Nation sur sa page Facebook, dit après 7 ans de gouvernement de la CAQ, c'est de la faute des autres gouvernements.
Ben oui.
On prend ça comment quand on est dans le PQ?
Faut pas se leurrer, là. C'est de la faute de François Legault et de la CAQ si on se retrouve avec cette décote-là. C'est à cause de l'argent gaspillé dans de nombreux projets qui ne menaient nulle part. Hein. Qu'on pense à Nordvolt, qu'on pense à Flying Wells, qu'on pense à la SACLIC, 1,2 milliard, on continue de compter. Donc, ce gouvernement-là s'est mis dans cette situation-là de lui-même. Il n'y a aucun doute à y avoir là-dessus. Et puis, il ne peut pas dire non plus qu'il ne s'y attendait pas parce que le Parti québécois, ça fait des mois qu'on les met en garde par rapport à ça. Ça fait des mois qu'on décrit ce gaspillage-là des fonds publics. Et à la veille du dépôt du budget de M. Girard, on avait demandé à notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il pensait que le déficit allait s'accroître. Il avait dit « je ne peux pas croire que le déficit va s'accroître parce que ça serait dangereux. On serait alors menacé d'une décote ». Puis finalement, on est passé d'un déficit de 11 milliards à 13-14 milliards. Donc, ouais. Finalement, la décote, on l'a vu venir, nous, de notre côté. Là, je sais que probablement que mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, va se prononcer là-dessus ce matin, mais est-ce qu'il y a des discussions qui ont eu lieu à New York? Est-ce que le premier ministre s'est rendu pour en discuter? Qu'est-ce qui a été fait pour éviter cette situation-là? C'est ce qu'on va vouloir savoir, probablement. Puis dans l'entremise, bien, je veux dire, c'est vraiment leur responsabilité à 150 %, là, donc c'est très inquiétant pour les finances du Québec.
Peu importe. C'est la responsabilité à qui, ça va bientôt possiblement devenir la responsabilité du Parti québécois de prendre la barque puis d'amener ça dans le bon sens. Est-ce qu'on regarde ça, ce fouillis-là que la CAQ est en train de mettre puis qu'on a mis dans les dernières années puis on se dit « OK, dans quelle situation on va entrer là puis comment on va faire pour ramener ça? » C'est quasiment... Je vais appeler ça un piège parce que là, en campagne électorale, on va vouloir faire des promesses, mais en même temps, dans la situation, on ne pourra pas trop s'avancer. Pendant ce temps-là, il y a peut-être des partis qui vont se gâter, mais le Parti québécois va peut-être dire « Non, nous, on veut rester pragmatique ». À quel point c'est un défi de se ramasser avec ce que la CAQ va nous avoir laissé?
Ça va être un défi, c'est sûr et certain, peu importe qui prendra le pouvoir en 2026. Heureusement, on est un parti rigoureux qui fait ses devoirs. On devra faire nos devoirs de manière très, très, très assidue pour, selon l'état dans lequel seront laissées les finances publiques si jamais on en venait à prendre le pouvoir en 2026, c'est sûr et certain. On a déjà certaines pistes de réflexion par rapport à ça. D'abord, on ajoute des structures par-dessus des structures. Là, la CAQ sont très forts là-dessus. Par exemple, Santé Québec par-dessus le ministère de la Santé. Il devait y avoir des rôles très, très, très distincts pour ces deux entités-là. Finalement, il n'en est rien. Donc, on dédouble le nombre de fonctionnaires, le nombre de travailleurs et à cause de la paperasse, de toute la bureaucratie qui s'est ajoutée sous le gouvernement de la CAQ, il va falloir faire du ménage là-dedans, c'est sûr et certain.
L'âge dans Santé Québec?
Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais il faudra faire nos devoirs. Il faudra retourner chacune des pierres pour voir où est-ce qu'on peut couper puis où est-ce qu'on peut réaligner là, nos finances publiques.
La situation de l'itinérance au Québec, pas une situation très rose et une situation qui s'empire. Si le Parti québécois est au pouvoir éventuellement, qu'est-ce qu'on ferait concrètement pour améliorer la situation de l'itinérance, puis peut-être éventuellement voir la lumière au bout du tunnel?
Ça fait des mois et des mois qu'on somme le gouvernement d'agir là-dessus. Mais notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'est même emparé de l'enjeu personnellement et il a demandé au premier ministre de lui aussi s'en emparer personnellement parce que ça n'a aucun bon sens que dans une nation riche comme le Québec, on se retrouve avec autant d'itinérants puis que ça continue à augmenter. Le dernier dénombrement là, qui a été fait en 2022, là, ce qu'on nous disait, c'est qu'en 2018-2022, il y a eu une augmentation de 44 % de l'itinérance. Moi, ce sur quoi je veux mettre la lumière aujourd'hui...
Puis
c'est...
il va encore avoir une augmentation.
Oui, le dernier dénombrement a eu lieu la semaine dernière. Mm-hmm. Puis, j'ai questionné le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, par rapport à ça en chambre il y a deux ou trois semaines maintenant. Et je lui disais, donc, vous dites faire tout ce qu'il faut là, pour améliorer la situation. Comment vous entrevoyez le prochain dénombrement? Qu'est-ce qui va se passer? Et de son propre aveu, il a dit, bien, ça va augmenter. J'ai dit, bien, comment est-il possible? Donc, il y a vraiment des choses à faire. Il faut se pencher là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, comme femme là, au Parti québécois, c'est la situation des femmes en itinérance, parce qu'elles le vivent de manière très différente des hommes. Donc, les femmes, de 70 à 85 % des femmes qui vont être dans la rue vont vivre une forme ou une autre de violence à un moment donné, quand elles vont être dans la rue. À cause de ça, elles vont le vivre de manière plus cachée. Elles veulent se protéger, protéger leur sécurité, leur intégrité. Des fois, elles se retrouvent aussi à la rue avec leurs enfants. Donc, elles vont errer de sofa en sofa, aller chez des connaissances. Elles vont dormir dans leur voiture. Et ça fait en sorte que si elles se cachent, donc, et elles ne sont pas à proprement dit dans la rue, au soir du dénombrement, elles ne sont pas considérées dans les statistiques. Donc, elles sont invisibilisées, ce qui fait en sorte que quand vient le moment de mettre en place des solutions, bien, elles ne sont pas considérées non plus. Donc, moi, ça m'inquiète énormément. Et je veux m'assurer là, que le gouvernement reconnaisse l'itinérance au féminin comme un enjeu qui est propre à soi-même pour qu'on puisse justement élaborer là, des solutions en fonction de ça, puis nous assurer que ces femmes-là soient en sécurité puis qu'elles puissent être accompagnées.
Catherine Gentil-Cor, c'est comment être une femme en politique au Québec en 2025?
Moi, je trouve que je suis extrêmement choyée justement avant de me présenter, avant la campagne électorale, je regardais les documentaires des femmes qui m'ont précédée. Quelle chance j'ai de passer passer après elles. Elles ont vraiment tracé la voie. Évidemment que ça reste un milieu assez masculin, mais moi, je sens vraiment que j'ai ma place, qu'on écoute ce que j'ai à dire, qu'il y a un respect de ce que j'ai à dire, puis il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses. C'est pas facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas facile aujourd'hui des fois d'avoir le courage puis de prendre une certaine distance par rapport à tout ce qu'on peut dire de soi quand on est en politique. Mais quand on garde de vue nos idéaux, puis nos valeurs, puis qu'on s'accroche à ça, bien, ça nous donne la force de continuer, puis on se dit, OK. Puis quand je regarde le regard des jeunes femmes aussi, parce qu'il y en a de plus en plus là, qui viennent me voir, qui viennent vers moi, puis je vois la fierté dans leurs yeux, puis je me dis, waouh, tu sais, il y a quelqu'un, je disais à Rich tout à l'heure que moi, j'étais une fille de la génération de Musique Plus, tu sais, donc pour moi, de me ramasser ici, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, puis d'avoir cette entrevue-là, je me dis peut-être que plus tard, je vais recroiser ces jeunes femmes-là, puis elles vont être rendues ailleurs, puis on va avoir des discussions qui vont être riches. Donc, il y a une responsabilité qui vient avec ça, puis moi, j'embrasse ça. Puis je le regarde du côté positif.
Ça me rajeunit pas, ça, là. Hein?
Non, ça ne me rajeunit pas. Mais ce qui est cool, par exemple, dans cette histoire-là, c'est la petite ado qui regarde Reg Laplanche à Musique Plus qui devient justement députée pour le PQ.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Catherine, je termine avec ça. Est-ce qu'il y a une femme présentement, on entend beaucoup parler de Marois Risky à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a une femme comme ça que tu te dis, hey, même si elle n'est pas dans mon parti politique, elle, je vais le regarder à l'œil parce que ça peut être un bon modèle?
Ben, c'est un excellent exemple.
C'est l'exemple.
Hein? Elle a une rigueur de travail. Aussi, quand on se parle, là, elle est très sympathique, elle est ouverte à écouter ce que tu as à dire. La rigueur chez nous, c'est vraiment la façon de faire de la maison. Là, donc, évidemment, qu'elle est belle à regarder. Lui, ça m'a fait quelque chose aussi quand elle a annoncé qu'elle quittait.
Ah oui?
Ben oui, parce
ça a
que,
fait mal à tout le Québec, ouais. Je dirais.
Donc tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour elle d'avoir à faire des choix difficiles comme ceux-là. Et puis, mais c'est, vous savez, c'est important aussi de s'admirer les uns les autres, puis d'être capable de reconnaître les bons coups les uns des autres aussi. Je pense que ça fait partie aussi de...
Projet de souveraineté du Québec, présentement, à chaque fois qu'on en parle, on reçoit des textos, c'est pas important présentement, la menace de Trump, on voit que pour le Bloc québécois, présentement, c'est peut-être un peu plus difficile parce que les gens veulent un premier ministre face à Trump. Pour le Parti québécois, comment on va être en mesure de convaincre les gens à partir du moment où on va potentiellement prendre le pouvoir dans quoi quelques mois à peine? Qu'un référendum dans un premier mandat, c'est une bonne idée, puis que ça a des chances de passer, puis quand ça va passer, ben ça sera une bonne chose pour le Québec.
Mais écoutez, on vient de remporter Terrebonne à 53 %. Je me suis jamais dénaturée dans cette campagne-là. J'ai parlé d'indépendance dans cette campagne-là. Les gens savent que je suis l'indépendantiste convaincue, que c'est ce que je prône, que c'est ce que mon parti prône. Donc, je pense que l'ouverture, elle est là. On va jamais renier qui on est. On n'a jamais navigué non plus, pris nos décisions par rapport au dernier sondage. Donc, nous, notre orientation a toujours été claire. On veut aller chercher la confiance des Québécois en 2026. Et suite à ça, il y aura un référendum dans un premier mandat. Et puis, on aura largement le temps de discuter de ça aussi dans les prochaines années, mais en restant fidèle à nous-mêmes, en travaillant rigoureusement et en amenant des arguments aussi qui sont logiques. Je pense que jusqu'ici, on a tracé notre chemin puis on continue dans la même veine, tout simplement.
Catherine Gentil-Cord du Parti québécois, députée de Terrebonne, merci beaucoup d'être passée.
Oui, merci. Voir.
C'est la première fois qu'on se rencontrait. Merci.
Voilà.
Quand vous voulez, je vais passer quand vous voulez.
Ouais. Excellent.
On brisera la glace, on jasera musique comme Madeleine.
C'est ça, on fera quelque chose de plus funny.
Catherine Gentilcore. C'est ça, je l'ai-tu massacré, là?
C'est très beau.
Parce que
son italien est très bon, Reg.
C'est ça. Ouais. Ouais, je vois, tu me l'as soufflé à l'oreille.
T'es fort.
Merci d'être passé nous voir.
Merci.
À bientôt.
On s'arrête deux